With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Lisa Rose est la maman de Georgia, qui a 10 mois quand nous tournons cet épisode. 10 mois d'allaitement tantôt exclusif, tantôt mixte, 10 mois d'une aventure qu'on peut qualifier de sereine, désormais. Mais tout n'a pas démarré comme prévu. Sur le papier, tout était évident. Lisa Rose avait un projet bien défini, la mise au monde de sa fille de la manière la plus physiologique possible, en maison de naissance, sans péridurale, et l'allaitement qui, pour elle, en découlait. Et puis la vie est parfois joueuse et décide de mettre un peu de bazar dans nos plans pour voir comment on s'adapte. Ici c'est Georgia, qui enroulée dans son cordon n'est jamais descendue dans le bassin de sa maman. Et après un travail interminable, arrivera finalement par césarienne en maternité. Alors l'allaitement, qui était évident sur le papier, a pris une toute autre tournure. Il est devenu nécessaire, indispensable, salvateur même, pour Lisa Rose, qui avait besoin de réparer cet accouchement douloureux. Et la douleur, elle fait partie du postpartum de Lisa Rose. Elle la force à s'adapter pour pouvoir allaiter Georgia, qu'elle ne peut ni porter ni bercer en attendant d'aller mieux. Ajoutez à ça une infection pour maman et pour bébé, et quelques douleurs des mamelons au démarrage, fort heureusement, Lisa Rose est tombée sur une équipe, ou que dis-je, une partie d'équipe à la maternité qui a tout fait pour ne pas mettre à mal cet allaitement, qui était devenu si important. Ajoutez à ça un conjoint, ô combien impliqué qui prend sa place, remuez tous ces ingrédients, vous aurez un milkshake délicieux dont Lisa Rose va vous livrer tous les secrets. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lisa, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour, merci.
Lisa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre et en plus on a eu l'opportunité de le faire en direct, donc c'est toujours plus sympa d'échanger en face à face. Donc ravie de t'accueillir chez moi pour cet épisode. Pour commencer, un peu comme tout le monde, je vais te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie.
D'accord. Donc je m'appelle Lisa Rose, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu et donc je suis la maman de Georgia Maria qui va avoir 10 mois dans 2 jours. Voilà.
Ok, très bien. Alors Lisa, si on est là aujourd'hui, c'est que tu as allaité ta fille. Alors moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est déjà, est-ce que tu avais prévu d'allaiter? Est-ce que c'était un souhait de longue date pour toi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est intervenu assez tardivement? Comment, c'était quoi ta vision de l'allaitement? Est-ce que tu avais une transmission autour de ça, un environnement allaitant et que ça te semblait une évidence?
Alors, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas vraiment d'idée fixe sur est-ce que j'allais allaiter ou est-ce que j'allais donner le biberon. Après, on s'est renseigné. Je me suis un peu plus tournée vers tout ce qui est l'accouchement physiologique, etc. Et donc, ouais, l'allaitement, j'ai eu envie de le faire, mais sans me mettre de pression. Je ne me disais pas, il faut absolument que j'allaite. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Et puis, donc, c'est devenu un petit peu tout l'inverse. Donc, après l'accouchement, vu que l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu. Donc, comme j'ai dit, je voulais un accouchement physiologique. On s'était dirigé vers une maison de naissance. Donc, on voulait vraiment pousser la physiologie jusqu'au bout. Mmh. Et puis, donc, ça n'a pas été possible. Voilà, la césarienne. Et en fait, je l'ai vraiment vécu, moi, comme un échec, mm-hmm. cette césarienne, parce que donc, j'avais cette idée que toutes les femmes étaient capables d'accoucher naturellement. On le fait depuis la nuit des temps. Et donc, j'avais vraiment cette idée très profonde. Je l'ai encore, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que moi, ça s'est terminé en césarienne que ça veut dire que d'autres femmes ne sont pas tout à fait capables d'accoucher naturellement. Mais du coup, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Je me suis dit, si je suis même pas capable d'accoucher, comment je vais faire pour être maman ? C'était vraiment assez, assez brutal. Et en plus de ça, Georgia est née infectée, donc on est resté à l'hôpital pendant 5 jours, que des pleurs. On ne savait pas comment la calmer, elle avait de la fièvre.
C'était elle vraiment... était infectée d'où ? Elle avait inhalé du liquide qui était,
exactement.
Était méconial ?
Ouais, ouais. Okay. Elle avait donc elle avait bu du liquide amniotique. En fait, elle était complètement emmêlée dans son cordon, donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas sortir.
Ah, oui,
on était à 10 jours après la date prévue d'accouchement. Voilà, ça... voilà.
Ouais, donc là, il était temps qu'elle sorte.
Il était temps qu'elle sorte. Et donc, voilà, voilà, elle était donc infectée. Et en fait, donc je ne savais pas me lever, parce que j'avais vraiment extrêmement mal. Enfin, il faut se lever après une césarienne, mais donc je faisais quelques pas et c'était, voilà, c'était très, très compliqué. Ouais. Elle ne faisait que pleurer. Ben, la pauvre, elle avait mal, en fait, probablement. Ou en tout cas, elle ne se sentait pas bien.
Vous ne l'avez pas su tout de suite qu'elle avait une infection ?
Alors si, on l'a su assez vite. Mais reste que, ben, elle était là à pleurer. Nous, jeunes parents, on ne savait pas...
Ouais, et puis l'accouchement avait dû être rude pour elle, hein.
Bah oui, ah ouais. oui, parce que du coup, quand même, 30 heures de travail avant qu'on passe à la césarienne. Et donc oui, à l'été, en fait, c'était la seule chose que je pouvais faire pour essayer de la calmer. Parce que la bonne chose, c'est que par contre, dès qu'elle est née, 20 minutes après, elle essayait de téter.
D'accord.
Même s'il n'y avait pas de lait. Mais donc c'est vrai qu'elle a tout de suite eu cette faim et cette vivacité. Et donc, même s'il n'y avait pas de lait, bah, elle tétait et ça la calmait. Et okay. c'est devenu, du coup, directement une évidence, en fait, que c'était le chemin à suivre pour nous. Et puis, comme je le disais, pour moi, ça a été salvateur parce que ça, je pouvais le faire.
Ouais.
Ça, j'y arrivais.
T'es revenue remettre un peu de naturel là où, l'étape précédente, c'était pas passée comme tu le souhaitais.
C'est ça. Donc, vraiment, ouais, ça a été une révélation peut-être un peu forte parce que j'avais déjà envie quand même d'allaiter. Mmh. Mais c'est vrai que même si je me disais, bon, je vais essayer, ben, au début, ça n'a pas fonctionné. J'avais pas de lait, hein, je le répète. Mais pourtant, c'est devenu super important pour nous et encore très précieux, encore aujourd'hui, vu que j'allaite encore.
Ouais, alors justement, parle-nous des démarrages. Tu nous disais que très rapidement, 20 minutes après, et ça c'est super, donc en fait, la césarienne, elle a eu lieu dans la maison de naissance ? Non, elle a eu lieu ailleurs.
Ouais, non, du coup, donc on a dû être transférés de la maison de naissance à l'hôpital.
Oui.
Donc, péridurale, etc.
Bah oui.
Évidemment, hein, césarienne. Mais donc, j'étais en anesthésie locale, pas générale.
Rachianesthésie.
Voilà, exactement. Ouais. Du coup, directement, après l'accouchement, dès qu'elle est sortie, ils me l'ont mise en peau à peau, directement. Et oui, 20 minutes après, elle est peut-être 30, quoi. Mais je veux dire, dès qu'on est arrivé dans la salle, donc pas la salle d'opération, mais la salle
de réveil.
C'est ça.
Donc ils t'ont laissé avec ta fille en salle de réveil, parce que c'est pas toujours le cas.
Ah oui, oui. Ouais. Ah si, si, ils m'ont laissé avec.
Ok, super.
Et donc elle s'est mise à téter directement après, quoi.
Ok, génial. Et donc là, elle se met au sein. Pas de douleur pour toi, rien de particulier qui se passe, juste un bébé qui tète. Bah, pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de lait, mais il y a le colostrum qui va
arriver. C'est ça. Alors, c'était pas agréable, hein. Franchement, les premiers jours, non, c'était pas... La sensation, en fait, oui, c'est... Pour moi, ça tiraillait, c'était pas très très agréable, mais en tout cas, elle tétait. Et donc, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est que comme je le disais, elle était infectée et elle a perdu assez vite plus de 10% de son poids.
Ah mince.
Et moi, je n'avais pas de lait, parce que pas de montée de lait, parce que donc la césarienne peut retarder justement la montée de lait. Et donc, on a dû lui donner un complément. Et donc, c'est vrai que tout ensemble a fait que ça a été très compliqué parce que, vu que j'avais pas de lait, il fallait absolument le stimuler. Il y avait une équipe qui, évidemment, pour ce que eux pensaient être le bien de Georgia, insistait un peu pour qu'on passe au complément, évidemment. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a été assez compliqué au démarrage. Mais dans ces choses un petit peu, dans ce pas de chance, entre guillemets, donc on a eu la chance que Georgia avait cette envie de téter, et qu'on a eu quelques sages-femmes qui étaient vraiment très tournées sur le physiologique, à la maternité et qui, elles, ont un petit peu contourné les règles que le pédiatre donnait pour pouvoir nous aider à vraiment démarrer cet allaitement.
Ok, et alors du coup, comment ça s'est passé ? Donc, on lui donne finalement au bout de quoi 24, 48 heures, j'imagine, des compléments, c'est ça. Parce qu'il trouve qu'elle perd trop de poids. Toi, t'as ta montée de lait qui est pas là pour l'instant.
Rien du tout.
Quel est le laps de temps entre la naissance, du coup, et la montée de lait ? Ta montée de lait, elle arrive à quel
jour ? Elle arrivait à 5 jours postpartum.
Voilà. Donc, du coup, elle a fait quasiment 3 jours de compléments. Georgia, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, pendant qu'elle prenait des compléments, qu'est-ce que toi, t'as pu mettre en place pour quand même que la montée de lait se fasse ? Alors, tu l'as mise au sein, j'imagine, quand même, au maximum.
Alors, je la mettais au sein, du coup... toutes les peut-être 2-3 heures, mais aussi quand elle était vraiment inconsolable. Donc en fait, je la mettais énormément au sein. Et alors, évidemment, toutes les techniques, les tisanes de fenouil, tout ça y passait, la chaleur, les compresses chaudes, etc. Ouais. Et le tire-lait. Donc il y avait un tire-lait médical dans la maternité. Et donc après chaque tétée, je devais tirer mon lait. Galère, parce que le tire-lait, du coup, ne fonctionnait pas de manière optimale. Il n'y avait qu'une seule des
tétérelles qui
fonctionnait. Donc je passais un bon 30-40 minutes après chaque tétée à tirer mon lait. Et donc dans un laps de temps très court après, je repartais sur une autre tétée. Donc
le tout avec un enfant qui pleure.
C'est ça. C'était assez épuisant. Et puis donc, aussi un petit peu démoralisant, dans le sens où quand on tire son lait et qu'il n'y a rien qui sort, mais rien, je te dis... 3-5 millilitres, quoi, vraiment rien qui sort. Et qu'on nous dit sur le côté, là, il faut lui donner à manger, il faut donner quelque chose, il faut qu'elle se nourrisse, elle est infectée, il faut, c'est important. C'est vrai que c'était un petit peu démoralisant, mais heureusement, on a tenu. Mon compagnon m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et donc, ce que je disais, là où on a eu la chance, c'est donc les sages-femmes qui étaient tournées vers la physiologie, parce que la pédiatre, alors je dis pas ça pour remettre la faute sur elle ou quoi que ce soit, je pense que c'est ce qu'on lui a appris, qu'elle était évidemment très bienveillante, elle voulait juste la santé de ma fille.
Évidemment.
Mais donc elle considérait qu'il fallait donner des compléments seulement au biberon, et le plus possible, grosso modo.
Ouais, et à l'avant-midi qu'elle mange.
Voilà, voilà. Et donc on a eu des sages-femmes qui sont venues nous, en secret, nous donner donc d'abord des seringues pour que mon compagnon puisse donc mettre son doigt dans la bouche de Georgia et que Georgia puisse donc... avoir le complément avec la seringue pour qu'elle ne perde pas ce réflexe de succion, en fait, et qu'elle n'ait pas cette fameuse confusion synthétine et qu'elle refuse le sein après ou qu'elle n'ait pas une bonne succion après. Donc on a eu cette première méthode là et ensuite une autre méthode donc qu'on nous a proposé, c'était carrément avec un tube, tu sais, quand on fait les prises de... quand on fait les prises de sang, t'as un tube comme ça. Donc elles nous ont donné un de ces tubes là avec un petit récipient, et donc on mettait le lait d'un côté. Et c'était vraiment du « do it yourself », ce petit truc-là.
Alors, attends, les récipients qui branchent à la seringue quand tu fais une prise de sang, c'est ça ?
C'est ça.
Quand tu branches à l'aiguille ?
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous faisiez avec ça, du coup ?
Donc, en fait, ils nous ont donné sur le côté comme un petit récipient où mettre le lait. Et donc, on mettait ce petit tube dedans.
Ah, donc un fil ?
Un fil, c'est ça.
Ok, donc c'est ça, c'est un dalle.
C'est ça.
On appelle ça un dalle en allaitement. Donc, c'est un récipient, le tuyau, et le bébé, quand il tète, ça vient aspirer le lait qui est dans le récipient. C'est ça. Okay.
Donc, on a fait avec ce qu'il y avait, avec ce qu'ils ont pu nous donner. Et donc, on a fait ça. Et encore une fois, Georgia, par contre, très grand appétit. Tout ce qui pouvait passer, elle le mangeait.
Très bien.
Et elle a continué à vraiment bien téter. Et donc, après 5 jours, cette montée de lait est venue. Et...
Donc, elle prenait et les compléments de lait artificiel. Et ce que toi, tu arrivais à tirer de colostrum, j'imagine, puisqu'on attendait la montée de lait. Donc un liquide orange un peu foncé, là, un peu épais. Elle prenait un mix des deux. Et comme ça, elle était nourrie et par ce que toi, tu avais, et par les compléments. Donc le pédiatre était content. Et toi, tu enclenchais quand même ton allaitement.
Ouais, mais ça a été long.
Mais donc, tu as été quand même plutôt pas mal accompagnée. Parce qu'en fait, tu as eu quand même des gens qui t'ont expliqué qu'il fallait stimuler autant que ce que Georgia aurait stimulé elle pour que ça se fasse.
C'est là, franchement, qu'on a eu cette chance, parce que c'est sûr que si on n'avait pas été accompagné de cette manière-là à ce moment-là, je pense pas qu'on aurait réussi, parce qu'on n'aurait pas su, évidemment. Donc on a vraiment eu cette chance d'avoir des sages-femmes qui s'y connaissaient et qui avaient cette envie de nous aider à réussir ce projet d'allaitement.
Ok, super. Toi, pendant ce temps-là, en termes de douleur, t'es comment pendant ces 5 jours-là ? Parce que les suites d'une césarienne, parfois, c'est relativement facile et puis parfois, non. Pour toi, est-ce que tu arrivais à te lever, à te doucher, enfin, toutes ces choses-là ? Non. Prendre Georgia dans les bras, l'avoir sur toi.
Rien du tout. C'était vraiment très, très dur. Après, je pense qu'il y a vraiment le côté psychologique qui joue aussi, hein, parce que j'ai été du coup abattue, hein, comme je te l'ai dit les premiers jours. Mmh. Je les ai vraiment très mal vécues. Et une douleur. Tu sais, il faut se lever dans les 6 heures après la césarienne. Mmh. Donc déjà, à ce moment-là, franchement, je pense que je me suis juste levée. J'ai fait 2 pas, j'étais me recoucher. C'était vraiment intenable. Et oui, au bout de 5 jours, j'arrivais un petit peu à marcher. Mais même pour quitter la maternité, ça a été très, très long, le chemin de la chambre à la voiture, quoi. J'avais vraiment beaucoup de mal. Des énormes douleurs. Donc, pas tant sur la cicatrice, mais vraiment au niveau du ventre, en fait.
D'accord, globalement.
Vraiment, ouais, vraiment au niveau du ventre. Mais comme si on me tordait le ventre, honnêtement... Bon, après, les contractions étaient pires quand même, mais je veux dire, en termes de...
30 heures de contractions. Ouais.
Mais en termes de douleur, c'était quand même assez intense. Et voilà, donc il y avait le ventre qui me faisait très mal. Après, bon, j'étais moi aussi infectée, donc aussi de la fièvre, etc. Oui, ah oui, oh la totale.
Vous avez fait la totale. Comment ça s'appelle, un strike.
Ouais, donc c'était vraiment très dur, oui, impossible de me lever. Et donc, bah, comme j'en parlais, hein, déjà de la culpabilité que je m'étais mise de ne pas avoir réussi à accoucher comme je l'imaginais, comme je le voulais en tout cas. Et de ne pas pouvoir me lever, même pour bercer ma fille, c'était pas possible, alors qu'elle pleurait beaucoup. Donc encore une fois, c'est pour ça que l'allaitement a été vraiment, vraiment salvateur. Et alors du coup, je devais la mettre en position ballon de rugby. C'était la seule qui passait pour les douleurs, que j'ai moins mal en tout cas en allaitant. Mais c'était quand même douloureux.
Ouais.
Au niveau donc du mamelon, comme je le disais, ça tiraillait. J'ai eu quelques crevasses, mais allez, ça faisait mal. Mais je veux dire, c'est passé relativement vite, puisque Georgia a tout de suite eu une bonne succion, par contre. Mm-hmm. Ça, on a vraiment eu de la chance. Donc c'était vraiment juste les douleurs au ventre qui étaient très compliquées pour l'allaitement.
D'accord. Ouais, donc cette position ballon de rugby, c'est la position où on met bébé un peu en fait, sur le côté, bah, comme on porterait un ballon de rugby. En fait. Mm-hmm. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est pas la position la plus pratique pour l'allaitement en général, mais quand on a eu une césarienne... Ouais. Ça peut trouver son intérêt parce que c'est vrai que les positions où bébé est sur le ventre avec ses patounes là qui viennent vous malaxer le ventre, c'est pas du tout confortable.
Non, ça c'est pas possible.
C'est pas possible. Du coup, alors la montée de lait, elle arrive à J5.
Ouais.
À ce moment-là, tu sors de la maternité ou tu sors après ?
Ouais. Alors du coup, je suis sortie de la maternité justement à J6.
D'accord. Une fois que la montée de lait est arrivée, qu'ils se sont dit... Et donc, à ce moment-là, tu sors sans complément de lait artificiel, avec...
Alors, je sors sans complément de lait artificiel, mais avec, du coup, la sage-femme qui devait passer et vérifier de très, très près le poids pour être sûre que tout allait bien.
Ok, très bien. Donc, tu pars quand même assez sereine. Ta montée de lait, elle est arrivée. Ton bébé tête au sein.
Ouais. Bon, pas sereine, je n'irai pas jusque-là. Concernant l'allaitement, en tout cas, il était bien lancé.
Okay.
Je pense, encore une fois, une des choses qui a vraiment, vraiment aidé, c'est la faim de Georgia. Ça, c'est vraiment... Elle était tout le temps là à avoir faim. C'est ça, très, très gourmande, encore aujourd'hui. Hein. Dès que quelqu'un est en train de manger quelque chose, elle vient lui chipper. C'est incroyable.
D'accord,
elle est très gourmande. Et donc ça, oui, ça a aidé parce que à partir du moment où elle, de toute façon, elle était tout le temps en train de téter, je me disais, bon, ça devrait fonctionner.
Oui.
Et vu que, sur le mamelon, en tout cas, j'avais à ce moment-là plus de douleur, plus de crevasses, ça allait.
Oui, donc tu as vécu les tout démarrages de ces sensibles, mais c'est pas l'horreur, c'était plus tes problèmes de césarienne et de cicatrisation qui posaient problème. Ok, donc tu rentres à la maison, fin de la maternité, toi t'es encore pas très bien physiquement, mais l'allaitement il se lance. Comment ça s'est passé ensuite? Du coup, la sage-femme est passée,
c'est ça.
Elle est venue vérifier qu'elle prenait bien du poids. Comment ça a évolué tout ça?
Bah après, très très bien. Franchement, après très bien. Je pense que comme on le dit, une fois que c'est lancé, en fait... c'était lancé. Elle a bien repris du poids. C'était vraiment ça qui inquiétait le plus. Parce que quand ils perdent plus de 10% de leur poids directement, c'est un petit peu... Ça sonne
la sonnette d'alarme,
c'est ça. Mais du coup, ça s'est très bien passé parce qu'elle a très bien pris du poids. Elle tétait très bien. À chaque fois, on vérifiait bien donc la déglutition, etc. Bon, ça, je pense que c'est un peu basique. Je suppose que toutes les...
Oui, mais ceci dit, je crois pas qu'on apprenne... Enfin, je suis même sûre qu'on n'apprend pas systématiquement aux mamans à reconnaître les moments où son bébé déglutit. Et d'ailleurs, on se retrouve parfois avec des enfants qui sont au sein, qui ont l'air d'être branchés, mais qui, en fait, font pas grand-chose. Et les tétés durent des heures, mais en fait, c'est pas efficace. Et donc, c'est vrai que c'est un truc important de savoir reconnaître un bébé qui déglutit, parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'il mange, en fait.
Ouais.
Vraiment.
Mais ça, c'est vraiment... Moi, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes abonnées quand elles viennent me parler d'allaitement et de comment de le faire. Je dis toujours, il faut trouver une consultante en lactation avant d'accoucher.
Ouais, bien
en
fait, sûr.
Tout simplement. Et d'avoir du coup quelqu'un qui déjà connaît notre projet, connaît nos envies, etc. et qui puisse nous aider au moindre souci, en fait. Je pense que c'est super important.
Et toi, t'avais quelqu'un, du coup ? T'avais contacté quelqu'un en amont qui a pu t'aider pendant cette période-là ? Parce que tu parles beaucoup des sages-femmes, de l'hôpital et tout ça.
Alors, du coup, moi, je m'étais donc accompagnée déjà des sages-femmes par rapport à la maison de naissance.
D'accord.
Je voulais accoucher donc avec des sages-femmes en maison de naissance.
Oui.
J'avais aussi une doula. Donc voilà, un peu la totale.
Ouais.
Maintenant, donc à l'hôpital, évidemment, ce n'étaient pas les sages-femmes de la maison de naissance, parce que, bah, voilà, elles ne peuvent pas débarquer et travailler dans un lieu dans lequel, pour lequel elles ne sont pas agréées, évidemment. Mais donc, pour le suivi post-accouchement, c'était les sages-femmes avec lesquelles je devais accoucher en maison de naissance.
D'accord, ok, très bien.
Ouais.
Ok, donc t'as été bien accompagnée.
Mm-hmm.
Donc tu rentres à la maison 5 jours après. Georgia, elle, de son côté, elle reprend du poids, ça roule. L'infection, j'imagine qu'elle est traitée,
ça se désamorce. C'était avant de quitter l'hôpital, évidemment, bah, elle a été sous antibiotiques pendant les 5 jours. Mais donc on est parti quand elle n'était plus inflammée.
Parfait. Toi, en termes de douleur, tu continues d'allaiter dans cette position ballon de rugby pendant combien de temps ? Pendant combien de temps est-ce que c'est difficile, ces suites de césarienne ?
Alors, pendant 2 semaines, ça a été assez compliqué. Vraiment, pendant 2 semaines, ça a été assez compliqué en termes de douleur.
Mmh.
Et puis, en plus, bon, j'avais ce truc, je voulais pas trop prendre de médicaments.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que, autant maintenant, si demain je tombe malade encore une fois, qu'il faut des antibiotiques, bien sûr, je vais les prendre. Mais c'est vrai que les antidouleurs, j'avais pas envie d'en prendre des tonnes en allaitant.
Ouais, rapport à l'allaitement pour que la petite n'en mange pas trop.
C'est ça. Bon, c'est vraiment une question de choix personnel parce qu'en soi, actuellement, on dit que ça pose pas de soucis. Voilà, c'est mes convictions. J'avais pas spécifiquement envie de le faire.
Oui, donc du coup, tu luttais un peu avec ta douleur.
C'est ça. Mais après, franchement, après ces 2 semaines, ça s'est... Disons que ça a été dur pendant 2 semaines et puis c'est comme si du jour au lendemain, entre guillemets, ça allait vraiment mieux.
D'accord. T'as senti un moment quelque chose qui a changé ça a été beaucoup mieux.
Je me suis aussi, mon compagnon est kiné.
Ah,
et donc,
super.
Ouais, il m'a un petit peu aussi forcé à faire un peu des mobilisations et à un peu plus marcher, sans trop exagérer évidemment. Il faut faire attention aux suites d'une césarienne pour vraiment bien cicatriser. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi.
Ça t'a permis de remettre du mouvement de délier un petit peu toutes les tensions qui étaient en train de se créer autour.
Voilà. Et après, franchement, ça a été. Honnêtement, jusqu'à 6 semaines, c'est ce qu'on nous dit, jusqu'à 6 semaines, il faut vraiment faire attention. Donc, j'ai continué à le faire. Mais voilà, je pense je peux dire à partir de la 3e semaine, ça commençait à vraiment aller mieux.
Ok. T'as pu commencer à l'allaiter dans d'autres positions ?
C'est ça. Alors après, les autres positions, du coup... restait un petit peu compliqué, par exemple les positions, donc tu sais, quand tu es allongée, la position allongée tout simplement, elle s'appelle comme ça, où là c'est plus compliqué de contrôler ces petits pieds qui donc me tapaient dans le ventre, ça c'était plus douloureux par exemple. Donc,
faut mettre un coussin entre les deux. Le problème, c'est que ça éloigne le bébé de toi, donc c'est pas idéal pour la prise au sein. Enfin...
Bah, du coup, je l'évitais à ce moment-là. Bon, c'était un petit peu ennuyant la nuit.
Oui.
Mais,
obligé de te lever, du coup, d'aller t'installer avec le coussin d'allaitement, les 50 trucs pour qu'elle ait tes coudes, le bébé, etc.
Voilà. Ouais. Mais ouais, franchement, après, ça a été. Je pense, si j'avais su avant d'accoucher, évidemment, que j'allais avoir une césarienne, je pense que j'aurais un petit peu plus prévu toutes ces choses-là. Je me serais renseignée sur le sujet, voir un petit peu les positions d'allaitement, donc typiquement donc le ballon de rugby, un petit peu me renseigner sur comment donner un complément s'il le faut. En fait, j'aurais essayé d'arriver plus préparée en soi pour que cette période-là se passe plus facilement. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que malgré le fait que j'ai eu des débuts très difficiles, eh ben, ça se passe encore super bien maintenant. Je suis à 10 mois d'allaitement et ça se passe très très bien. Donc c'est pas une fatalité que ce soit une césarienne programmée ou pas. Si on se renseigne et qu'on se donne un petit peu les moyens et qu'on a cette envie, le temps, la patience envers soi et envers son enfant aussi, franchement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Ouais, c'est complètement possible d'allaiter à la suite d'une césarienne. C'est vrai que c'est pas le chemin le plus facile parce qu'en effet, ça peut retarder un peu la montée de lait, plus les douleurs, etc. Le combo de tout ça fait que, j'allais t'en parler. Du coup, il faut être accompagné, quoi. Donc, les professionnels de santé que tu as rencontrés et qui t'ont bien aidé. Et puis, ton conjoint, du coup, si je comprends bien, en fait, il est resté là tout le temps dans cette première semaine, là où tu étais à l'hôpital, où tu ne pouvais pas te lever, etc. Quelle place il a pris à ce moment-là ? Quel rôle il a pris ?
Une place énorme. Ça, je... En tout cas, je suis très, très reconnaissante de la manière dont il a géré les choses. Moi, ça a été aussi une révélation par rapport à lui. Je me suis dit, mais quel papa incroyable. Et qu'est-ce que je l'ai bien choisi, quoi.
Vraiment. Tu pensais pas qu'il serait comme ça ?
Alors, j'étais sûre que ça allait être un très, très bon papa. Vraiment, parce que c'est quelqu'un de très attentionné, de très aimant. J'étais sûre que ça allait être un excellent papa. Mais c'est vrai que sur le côté un peu physiologique, etc., il était un petit peu moins chaud. Hein. C'est moi qui étais à fond dedans. Il m'a suivi parce qu'il respectait le fait que c'était moi qui accouchais finalement. Et donc, il respectait ça. Il m'a suivi. Il me soutient de toute façon toujours. Mais pour l'allaitement notamment, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle ne perde pas son réflexe de succion. Donc voilà, l'allaiter au doigt, etc. Alors que le pédiatre disait de donner des biberons, lui, il m'a vraiment complètement soutenue par rapport à ça.
Oui, il t'a suivi, toi.
Ouais.
Alors que, bon, à la base, l'allaitement, pourquoi pas, mais oui, pareil, c'était... si ça marchait pas, c'était
voilà.
pas grave.
Voilà, c'était...
Il a jamais eu un mot, à un moment, de « t'es sûr que tu veux continuer, c'est compliqué ?» Parce que, tu sais, parfois, quand nous, on est dans la douleur, dans, voilà, un peu dans la détresse des démarches.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et qu'ils aiment pas nous voir comme ça, ils peuvent avoir le truc de... C'est pas plus simple si on arrête. Non, là, dans ton cas, ils te suivaient à fond.
Alors, je pense... C'est fortement probable qu'il l'ait dit à un moment, mais tu vois, je l'ai pas retenu comme ça. C'est sûr qu'il a eu beaucoup de mal, évidemment, avec l'accouchement, de me voir souffrir pendant 30 heures, rien qui bouge, la césarienne, ça a été vraiment très très dur pour lui. Mais je pense qu'il a tout de suite compris à quel point justement c'était important pour moi, après tout ça, en fait, de réussir à allaiter. Et donc, ouais, il m'a soutenue à fond, hein. Ouais. Il a soutenu à fond, que ce soit autant pour ça, pour amener le tire-lait, il m'aidait à tenir la tétrelle et tout carrément si la petite dormait. Donc vraiment, il était là à 100% et c'est vrai que c'est très très important parce que je pense que si lui n'avait pas autant été là pour m'aider, ça aurait été totalement impossible. Ça, c'est sûr et certain.
Oui, parce à ce moment-là, tu avais besoin de ce relais-là parce que toi, tu pouvais pas te lever. Donc faire toute cette tétée, la succion sur le doigt,
etc. Ça aurait pas été possible. Ouais. Ça aurait juste pas été possible. Donc sans lui, voilà. J'en suis très très reconnaissante, mais c'est vrai que ça montre l'importance d'être bien entourée en fait dans les projets, mais je pense dans les projets d'allaitement en général.
Oui, bien sûr.
Si ton compagnon est à côté et que ça lui pose problème pour X ou Y raison et qu'il ne te soutient pas, c'est sûr que c'est...
Dans ce type de projet-là, quand les coparents ne sont pas dedans, en fait, c'est vraiment un facteur de mise à mal d'un projet de ce style parce que... Il n'y a pas beaucoup d'allaitements qui sont avec zéro galère. Et si à la première galère, on a quelqu'un qui nous dit oh, « c'est un peu galère, tu ne comptes pas plutôt arrêter, viens, on donne des biberons, c'est plus simple.
»
Voilà, avec la fatigue et tout ce qui se passe en postpartum, on est vite tenté.
Il aurait pu, franchement, parce que finalement, il y avait un petit peu tout qui était réuni.
Ouais,
la petite qui n'allait pas bien, moi qui ne pouvais pas me lever... la pédiatre qui disait il faut nourrir cet enfant et qui était un petit peu contre ces techniques un peu plus physiologiques, oui, clairement, il aurait pu se dire même pour le bien de ma fille, on fait comme ça en fait.
Ouais.
Mais non, franchement, il a écouté, il a été très ouvert d'esprit sur le sujet, il a écouté. Et puis,
La pédiatre, elle savait du coup quand même que vous la nourrissiez comme ça sur le doigt avec la seringue ou même
alors,
pas vous vous cachiez dans un
du
coin
coup,
de
non. C'est assez marrant parce que les sages-femmes nous avaient dit quand la pédiatre passe, vous cachez tout.
Carrément.
Ouais, voilà. Et donc la pédiatre pensait qu'on donnait le complément au biberon.
Elles sont hyper mignonnes quand même, les sages-femmes, parce qu'elles peuvent se mettre dans l'embarras et tout.
Exactement.
Et en fait, elles le font pour vous
Exactement.
Et pour votre projet, c'est sympa.
Ouais, franchement, mais on est très reconnaissante. Je suis très reconnaissante aussi pour ça, hein, comme je le disais.
Ouais, ouais.
On a eu vraiment cette chance dans notre malchance, entre guillemets. Mm. Même si, allez, j'ai vécu assez mal cette césarienne, mais aujourd'hui, tu sais, je pense que tout arrive pour une raison.
Ouais.
Je m'étais tellement mis cette pression de la maman parfaite, entre guillemets, mais toute seule, hein. Il faut que je fasse l'accouchement physiologique parce que c'est le mieux pour le bébé, l'allaitement parce que c'est le mieux pour... Tellement dans ce carcan, en fait, que je m'étais mise moi-même, le fait que cet accouchement se passe comme ça, Donc pas du tout comme j'avais prévu, en césarienne, avec la péridurale, tout le toutim.
Ça a cassé le mythe direct.
Ah ouais, directement. Mais ouais, mais en fait, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je me mets plus du tout cette pression. Il n'y a plus de « ça, c'est le mieux ». Non, j'ai compris qu'il y a le mieux pour une situation, pour notre famille, pour ma fille, exactement. Et voilà, il ne faut pas se mettre cette pression, donc... Dans toute cette malchance, entre guillemets, en fait, c'était peut-être une chance. Et voilà, en plus, on a eu donc des sages-femmes qu'on ne connaissait pas, hein, du coup, vu que je n'étais pas censée accoucher là, à l'hôpital, qui nous ont suivis, qui nous ont aidés. Mon compagnon qui m'a aidée, donc...
Ça a été une prise de conscience pour toi, du coup, cet accouchement qui ne s'est pas passé comme tu voulais?
Ah oui, oui. Mais je ne l'ai pas peut-être vécu comme une prise de conscience sur le moment, mais en tout cas, ça a clairement débloqué quelque chose. Ça a débloqué quelque chose et... Bah, franchement, j'en suis contente parce que si j'avais continué dans le mindset que je m'étais mis pendant la grossesse de il n'y a qu'un chemin qui peut être bon finalement, mais ce ne serait pas possible actuellement.
Elle te venait d'où ces croyances?
Bonne question. Bonne question.
Est-ce que c'est un peu... Parce que les réseaux sont quand même assez présents sur ce domaine-là, en fonction des gens qu'on suit. Enfin, on sait à quel point les réseaux peuvent être clivants parce qu'on suit un truc, on nous propose un autre truc qui forcément est un peu dans l'esprit du précédent et ça peut vite devenir clivant. Est-ce que c'est par ça ou est-ce que tu avais dans ta famille, tu vois, de la transmission autour de ça, de l'accouchement physio et tout?
Pas du tout. Alors, en tout cas, c'était pas par rapport à ma famille. Quand j'ai parlé d'accouchement physiologique, tout le monde m'a dit « t'es complètement folle pour la péridurale ». Tout le monde me l'a dit, donc c'était pas du tout du côté familial. Après, sur les réseaux, moi, au contraire, avant justement de chercher, de m'y intéresser, donc de trouver des comptes qui étaient un peu plus axés sur tout ce qui est physiologique, au contraire, moi, je voyais beaucoup de personnes que je suivais qui accouchaient avec une péridurale, qui donnaient le biberon, etc. Donc, j'ai eu, disons, un petit couac pendant mon suivi de grossesse avec la gynéco qui me suivait. On s'y retrouvait pas, je me sentais pas à l'aise. Il y a eu quelques petites choses qui vraiment, c'était vraiment comme un drapeau rouge. Je me disais, je le sens pas bien. Et en fait, c'est en cherchant du coup
suite à cette déception,
c'est en cherchant un autre ou une autre gynécologue, un accompagnement en fait, que j'ai un petit peu découvert toutes ces choses là, notamment aussi via ma doula. Voilà, et c'est de là que c'est venu, et puis je me suis de plus en plus renseignée. Après, je pense que c'est peut-être parce que je suis un peu perfectionniste, en fait, hein, que moi-même, je m'étais mis cette idée de ça, c'est ce qui est bien. Ouais. Mais je pense que c'est ni ma famille, ni les réseaux, c'est vraiment...
C'est tes recherches qui t'ont amené à ça, suite à, au fait que ça se passe moyen avec ta gynéco. Ok, alors maintenant, comment ça se passe l'allaitement? Donc là, Georgia, elle a 10 mois. Après, ça a été un long fleuve tranquille, pas de galère, pas de petite pathologie d'allaitement
Alors, rien de dramatique. La seule chose, c'est moi qui n'ai pas fait attention. C'est totalement de ma faute. Mais j'ai eu donc une baisse de production de lait parce que j'étais partie en déplacement. Et j'ai pas assez tiré mon lait.
D'accord.
Et baisse de production de lait. Donc, et en plus de ça, Georgia, à ce moment-là, avait eu une petite gastro. Ah. Et les deux ensemble, elle a fait, donc, je pense, une grève de la tétée. Et donc, j'ai eu très, très peur à ce moment-là que mon allaitement s'arrête. Elle ne voulait plus téter. Quand je tirais mon lait, il n'y avait plus rien qui sortait. Enfin, j'exagère, mais beaucoup moins.
Ouais.
Donc, ça a été vraiment le gros couac, qu'on va dire, qu'on a eu.
Et elle, elle ne voulait plus téter. Ça a duré combien de temps?
Alors, ça a duré 2 jours.
D'accord.
Donc, quand je dis « elle ne voulait plus téter », c'est donc Georgia, c'est un bébé qui prend le sein, reste branché. Maintenant, c'est 5-7 minutes, on va dire. Et puis après, voilà, arrête, fait son re et même régurgite, en fait.
D'accord.
Donc, tu vois qu'elle a bien mangé et tout. Enfin, voilà, c'est une bonne mangeuse. Et donc, là, elle tétait, mais 10 secondes. Et puis, elle repoussait. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été assez compliqué. Donc, j'ai tout de suite appelé une conseillère en lactation, etc., pour essayer de savoir ce qui se passait. Ouais. Et donc, j'ai tiré mon lait. J'ai fait cette fameuse lune de miel avec son bébé.
Power pumping, Enco.
J'ai arrêté, j'ai enlevé tout ce que j'avais à faire de mon agenda. Je me suis dit, OK, je reste avec elle, avec un maximum de peau à peau. Je l'ai prise en portage, etc., des bains ensemble, tout ça. Tirer mon lait un maximum. J'étais à la pharmacie prendre les petits compléments, etc. Enfin, la totale, quoi. Et franchement, c'est passé.
Au bout de combien de temps c'est revenu, du coup?
Du coup, 2 jours après, elle s'est remise à vraiment bien téter. Et puis après, je me suis plus trop inquiétée pour ma production de lait, parce qu'à partir du moment où elle tétait bien,
ça repartait.
Voilà, donc c'est... On va dire le seul souci que j'ai eu, mais comme je le dis, c'était un petit peu de ma faute, parce que si j'avais suffisamment tiré mon lait en déplacement, ça ne serait pas arrivé.
Elle avait quel âge?
Alors, 5-6 mois.
D'accord.
Ouais, 6 mois, je pense.
Ok. En dehors de ça, facile.
Ah ouais.
Toi, tu travailles du coup beaucoup de chez toi.
Ouais.
En tant que créatrice de contenu. À quel moment est-ce que tu l'as mise à garder ou autre, ou est-ce qu'elle est avec toi depuis ces 10 derniers mois et avec ton conjoint?
Ouais. Alors là, elle a commencé début septembre la crèche. D'accord. 2 jours par semaine, et donc jusque là, on était ensemble.
D'accord, donc du coup, il n'y a pas eu de reprise du travail, enfin, tu vois, de façon de donner le lait différente pendant tout ce temps. En fait, elle était au sein, en exclusif.
Alors non, on a commencé du coup de l'allaitement mixte, donc parce qu'elle était RGO.
Ouais.
Et donc, une des choses qu'on nous a assez vite proposé, c'était le soir de donner un biberon avec un épaississant.
Ah oui, d'accord.
Parce que sinon, le RGO était un petit peu trop intense, elle a carrément dû être sous traitement. Mmh. Et donc, c'était simplement pour qu'elle garde le lait pendant la nuit et qu'elle puisse dormir, quoi.
D'accord, ok.
Donc, un lait anti-régurgitation basique, quoi.
Ok.
Donc, on a fait ça. On donnait aussi du kouzou, de la farine de caroube en début de tété. Mais bon, c'est un peu compliqué, en fait, quand il y a...
Ah oui, c'est tout un truc, ça, de...
Ouais. Ouais, ouais. Écoute, c'est les solutions qu'on nous a données. À ce moment-là, on faisait comme on pouvait. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec un bébé RGO allaité d'épaissir le lait, parce que du coup, c'est soit tu vas tirer ton lait avant et
c'est pas vraiment conseillé, en fait, de d'épaissir le lait maternel. Enfin, on dit qu'à la limite, il est plus digeste, donc c'est censé mieux passer. Donc c'est rarement un truc qu'on propose, en fait.
Ah ouais. Et écoute, nous, du coup, on nous disait soit de tirer un peu et de mettre de la farine de caroube avant. Donc pour qu'elle ait un épaississant avant, soit donner du kouzou en milieu de tété. Alors ça, c'était vraiment galère.
Du kouzou, qu'est-ce que c'est que ça?
Écoute, c'est un épaississant japonais. Oui, c'est la sage-femme de l'époque qui nous a donné ça.
Le kouzou yuzu.
Voilà, un épaississant japonais. En fait, c'est un petit peu comme de la maïzena, mais voilà.
Ouais.
Et donc, on devait mélanger ça avec de l'eau, le faire chauffer, etc. Et donc, on lui donnait ça à la seringue pour le coup.
D'accord.
En milieu de tété, pour épaissir en fait le bol alimentaire.
Ok.
Ouais, on n'a pas vu d'énormes différences avec ces techniques. Hein. C'est pour ça, je t'en parle, je te raconte, mais honnêtement...
Ni le biberon du soir, ni...
Ah ouais, par contre, là, on a vu une vraie différence avec
là,
le biberon du...
Ah, là, vous avez vu la différence ?
Ouais, elle a pu un peu mieux dormir, parce que donc, c'était très compliqué au début, parce qu'on ne pouvait pas la poser, en fait.
Et puis, elle a été traitée dans le même temps aussi.
Ouais.
Mais, au niveau médicamenteux, c'est ça ?
Ouais. Mais après, ouais, ça a quand même pas mal aidé. Donc, le biberon avec l'épaississant le soir... Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'allaitement mixte. C'était avec ce biberon le soir. Et donc, ça, c'était vers ses 4 mois.
D'accord, ok.
Ouais.
Donc, depuis ses 4 mois, elle est en allaitement mixte. Elle prend ce biberon le soir épaissi.
C'est ça.
Alors, faudrait demander à des consultantes en lactation, etc. Je ne sais pas si c'est... Enfin, on est sur un épisode témoignage, hein, donc renseignez-vous avant
tout
ça. Il faut évidemment essayer de trouver la cause du reflux. Épaissir le lait est une façon de... de combler un symptôme, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il y a du reflux. En tout cas, pour vous, ça a été une bonne solution d'avoir allaitement mixte avec le soir un biberon de lait épaissi qu'elle arrive à mieux garder dans son petit bidou. Elle a été traitée dans le même temps pour son reflux.
C'est ça.
Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Elle fait toujours ça
Elle fait toujours ça. Elle prend aussi parfois, si jamais je suis en déplacement la journée, elle va prendre du coup du lait en poudre. Voilà. Et sinon, l'allaitement continue toujours.
Ouais, dans ces cas-là, toi, t'as pas besoin de tirer. Tu pars une journée comme aujourd'hui.
Je tire quand même. Tires. Ah oui, oui. Ah non. Depuis le déplacement où j'ai pas assez tiré, normalement, je tire parce que j'ai trop, peur. Ah ouais, okay.
Ok, c'était un déplacement de combien de temps ? Vous savez pas tiré ?
3 jours du coup.
Ouais.
Ouais.
3 jours sans tirer du tout ? Non.
Si, j'avais tiré, mais pas assez. En fait, très honnêtement, je tirais quand je sentais que mon sein était rempli et que ça me posait souci.
Oui. En fait, tu t'es soulagée, mais t'as pas vidé.
Voilà. Et c'est pas bien. Il faut pas le faire. Il faut tirer à chaque tétée, en fait.
Ouais. Ça marche si vous avez un engorgement de faire ça. C'est-à-dire qu'on tire, on se soulage et voilà. Mais si on veut me stimuler comme son bébé, c'est pas suffisant.
Voilà. Ouais.
Ok, très bien. Et donc, allaitement mixte, du coup, c'est depuis ces 4 mois, et puis c'est confortable pour toi, parce que ça te permet en effet de partir sereinement quand tu pars, de te dire qu'elle prend dans un autre contenant, et au biberon. Et donc, pas de confusion, soi-disant, là, entre confusion synthétine, etc. Elle passe de l'un à l'autre sans problème, du tout.
Après, génial, pour la confusion synthétine, justement, on nous avait expliqué que c'est une possibilité, Voilà. Et qu'à partir du moment où le bébé tète bien et une bonne succion, en théorie...
Pas trop de raison.
Voilà, il n'y a pas trop de risques. Et pour le coup, vu que Georgia tète très bien depuis sa naissance, elle prend elle a un très, très gros besoin de succion, donc elle prend même la tétine depuis ces 3 semaines. Encore une fois, je ne le conseille pas si quelqu'un a un petit peu plus de mal, on va dire, avec la suction de son enfant, si son enfant n'a pas une bonne suction.
Mais chez pour vous, il n'y a jamais eu de problème.
Jamais eu aucun souci avec ça.
Non. C'est bien, c'est rassurant parce qu'il y en a aussi plein. Il y a évidemment des histoires où introduire une tétine, un biberon, ça fout le bazar et ça met l'allaitement à mal. Et puis il y a aussi plein d'histoires où ça se passe très bien et c'est important d'entendre les deux.
Ouais.
Là, elle a eu 10 mois.
Elle va avoir 10 mois dans 2 jours,
Est-ce que t'envisages de l'allaiter longtemps, pas longtemps? Est-ce que tu t'es fixé un objectif dans le temps d'allaitement? Ou est-ce que tu te laisses juste porter et tu vois jusqu'où ça vous emmène?
Je me laisse juste porter. Vraiment, je me laisse juste porter. Je me... Bah, encore une fois, vu qu'au début, c'était pas non plus... je me disais pas qu'il fallait absolument que j'allaite. En fait, c'est que du positif, ce qui se passe actuellement. Et donc, c'est vrai que je me mets pas la pression. Si demain, ça m'étonnerait, mais si demain, elle veut plus téter, ma foi, c'est comme ça. Et ça continuera aussi longtemps que possible, en fait.
T'envisages le sevrage naturel ou ce serait elle qui déciderait un jour qu'elle arrête de téter, c'est
exactement.
Ça et ton conjoint, il est aussi à l'aise que toi avec cette idée-là. On sait que l'allaitement du bambin, c'est pas toujours hyper bien vu, on va dire. Mm-hmm. Voilà, c'est pas le mot utilisé, mais enfin, en tout cas pas normalisé.
Ouais.
Est-ce que c'est un truc qui est OK pour vous deux? Vous avez échangé dessus?
Bah, écoute, on a un peu échangé dessus et on a vu que généralement, le sevrage naturel viendrait entre 2 et 6 ans. Mm. Et en effet, c'est sûr que si on arrive à 6 ans, ça lui poserait problème. Ce que je comprends dans le sens où, moi je me dis finalement si c'est naturel, où est le problème? Mais je comprends parfaitement qu'il y ait cette image en fait que les gens ont, cette pression sociale. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, surtout qu'en plus moi je suis sur les réseaux. Donc il y a cette chose en plus, j'entends parfaitement que si j'allais jusqu'à 6 ans ça pourrait être problématique parce que ça attirerait tout un tas en fait de critiques et de négativité en fait par rapport, dans ce sens-là, je le comprends.
En même temps qui n'ont pas lieu d'être.
Voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est parfois un petit peu dur quand on est sur les réseaux de... Enfin, dans sa place à lui, parce que lui, il s'est mis avec quelqu'un qui est sur les réseaux, mais ce n'est pas du tout son cas. Donc c'est sûr qu'il a peut-être une certaine pudeur aussi un petit peu différente. Donc honnêtement, si jamais on doit en arriver jusqu'à là, moi, je ne pense pas que je la forcerais à arrêter. Mm-hmm. Ceci dit, c'est vrai que je ne communiquerais peut-être pas dessus, tu vois. Ouais. Parce que je comprends sa réticence, en fait.
Oui, tu respecteras l'intimité de votre famille. Tu penses, c'est vrai que c'est de l'ordre de l'intime.
Mais donc, je pense que ça le dérangerait. Mais encore une fois, il me soutient, en fait. Donc,
Puis après, tu sais, les tétés avec un bambin, enfin, ça se diffère, ça se négocie. Ouais. Et c'est pas le même allaitement à 3-4 ans que l'allaitement que tu vis là à 10 mois. Donc,
Après, je pense 6 ans, ça m'a l'air d'être vraiment un extrême. Moi, je n'ai encore vu personne. Sur les réseaux, peut-être une ou deux personnes. Mais je veux dire, dans les gens que je suis au quotidien, même celles qui sont pour un allaitement long, voilà, j'ai pas vu des personnes qui allaient jusqu'à cet âge-là. Je pense que c'est vraiment un extrême. Là, je le prends en exemple. Mais voilà.
Bon, de toute façon, tu verras d'ici là.
Ouais,
par contre, jusque-là, tu vas te laisser porter. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? C'est tout, en fait. C'est tout. Ensuite, ma question, c'est c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à une maman qui a envie d'allaiter? En règle générale, je crois que tu nous l'as dit un peu tout à l'heure, c'est d'avoir dans la poche le numéro d'une consultante en lactation, s'être un peu préparée en amont. Ouais. Et pour une maman qui va vivre ce que tu as vécu toi, à savoir une césarienne, alors en urgence, pas en urgence, mais enfin en tout cas une césarienne et peut-être des suites un petit peu difficiles autour de ça, et un projet d'allaitement, ce serait quoi ton meilleur conseil?
De se faire confiance. Faire confiance à soi, à son enfant, de beaucoup communiquer évidemment donc avec son compagnon. D'être entourée de personnes, en tout cas essayer de s'entourer de personnes qui suivent ce projet, qui sont justement là pour nous conseiller. Donc via, si possible, du coup, une sage-femme qui s'y connaît très bien en lactation ou carrément une conseillère en lactation qu'on aurait contactée en amont. Je pense que c'est vraiment le mieux d'avoir quelqu'un en amont. Et vraiment se faire confiance parce que comme je le dis, même si le démarrage est difficile, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
On entend dans ce que tu dis que l'importance de l'équipe autour, parce que si soit on est un petit peu amoindri par cette césarienne, les douleurs, le postpartum immédiat, si la team, elle n'est pas motivante, enfin, elle ne va pas dans ton sens, là, ça complique sérieusement le projet, c'est ça?
Ouais. Bah, après, moi, je ne l'ai pas vécu, heureusement, mais comme je le dis, sans toutes ces personnes autour de moi qui m'ont aidée et qui ont été là pour, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible, par contre.
Ouais. Donc, entourez-vous, quoi.
Ouais.
Ok. Est-ce que tu connais l'interview Fast Milk?
Non.
Alors, je te la fais. L'interview okay. Fast Milk, c'est une interview de 4 petites questions auxquelles on répond okay. Fast.
D'accord.
C'est quoi, Lisa, ta tétée la plus insolite?
Ouh là là. Ouais, dans l'avion, du coup. Hein. Enfin, c'est pas finalement ouais. Très insolite, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal pris l'avion avec Georgia. Et du coup, la tétée au décollage et à l'atterrissage pour éviter qu'elle ait les oreilles bouchées. Ouais.
Ok. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Ça peut être ironique ou pas du tout.
Ouh là là. Le truc le plus...
Qu'est-ce qui est glamour ou pas glamour du tout? Il y a un truc pas glamour, je sais.
Oui. Bah après, je pense que ça nous arrive aussi beaucoup, mais ouais, j'ai un bon réflexe d'éjection. Il n'est pas trop fort, mais il est bon. Donc ouais, du lait partout, quoi.
Ouais.
En jet.
En fout partout.
Voilà.
Qui s'en est pris dans la tête? Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi?
Allongée.
Allongée, finalement.
Ouais, finalement.
Cette position qui était difficile à faire au démarrage.
Ouais, ouais, mais maintenant, très bien.
Et le ballon de rugby, alors? T'as arrêté?
Alors, j'ai arrêté, non. Mais après, au début, c'était vraiment très, très, très utile. Hein, donc, pour toutes les femmes qui vont ou ont une césarienne, c'est vraiment une très, très bonne solution. Mais ouais, non, elle est galère. Elle est un petit peu galère. C'est
ouais,
plus
on va
facile,
pas se mentir, c'est ouais. Un peu galère.
Pour le coup, si on veut une position similaire, la madone est beaucoup plus
Et puis, plus ils grandissent, plus c'est la galère. Ils ont les pattes derrière qui dépassent. Tu peux pas te mettre dans ton canapé tranquille, ça va pas. Ballon de rugby, quand vraiment c'est nécessaire. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'ici, qu'est-ce que tu me dirais?
Magnifique.
Carrément. Ouais. C'est beau. Très bien. Merci beaucoup, Lisa.
Merci à toi.
Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose que tu aimerais transmettre ou autre, ou est-ce qu'on s'est tout dit?
Écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Hein. On a,
super.
On a bien fait le tour du sujet, je pense.
Ok, génial. Merci encore beaucoup d'être venu jusqu'à moi, d'avoir pris ce temps dans ton emploi du temps de folie de cette journée. Et puis voilà, je pense que ça va beaucoup aider des mamans qui vont vivre ou ont vécu cette situation et qui peut-être se reconnaîtront dans ton témoignage.
J'espère.
Donc merci beaucoup de l'avoir confié à Milkshaker et puis voilà.
Merci belle, à toi de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Belle continuation dans ton allaitement avec ta louloute et le bonjour chez toi. Allez, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.